Bonsoir Pierre Assouline.
Bonsoir.
On est avec vous pour parler de votre dernier écrit qui s'intitule L'annonce aux éditions Gallimard. Si je vous dis Léonard Cohen, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit en dehors de celle qui est en couverture du livre? Qu'est-ce que ça vous évoque, Léonard Cohen?
Eh bien, ça m'évoque une partie de ma jeunesse, puisque avec Bob Dylan, c'était les deux chanteurs qui m'ont marqué en tant qu'étudiant. Et donc, et en même temps, c'est une évocation avec le sourire parce que je l'ai suivi jusqu'à sa mort, par procuration, à distance, et il ne m'a jamais déçu. Parce que vous savez, il y a des chanteurs, Bob Dylan m'a déçu. Enfin, on ne peut peut-être pas faire une soirée sur Bob Dylan, mais quand même, je peux vous dire que Bob Dylan m'a déçu parce que il continue à chanter, c'est formidable, enfin, c'est un immense chanteur, etc. Mais quand en public, quand il se produit en public, il parle pas aux gens, il leur dit même pas bonjour, ni au revoir, il leur tourne le dos, il s'en va et il ne rajoute pas une seule chanson, pas un bis, rien. Je comprends même pas pourquoi il se produit en public.
Enfin, vous voilà. Aimez le chanteur qui discute avec vous?
Bah, je veux dire, il faut
une présence.
Non, mais il y a un artiste, il y a son public, il y a une connexion.
Oui, je comprends.
Ou alors on vient pas. Si c'est, mais tous les artistes font des bis. Parfois, Bruce Springsteen reste une heure de plus ou une heure ou deux de plus. Enfin, tout le monde. Et Leonard Cohen, j'ai vu sur YouTube des tas de concerts de lui où effectivement il y a une osmose. Mais ça, on peut le dire aussi de Charles Trenet, de Jean Sablon, de qui vous voulez. Hein. C'est pas uniquement une question d'époque. C'est une question de voilà, de feeling, d'osmose. Et, ben, il y en a où ça connecte pas, ben j'aime pas.
Et vous dites que on va pas faire la soirée sur
non, pas trop.
Bob Dylan,
déjà,
mais en même
merci,
temps.
Merci de m'avoir invité pour fêter avec vous l'arrivée du printemps à Bordeaux.
Ah ben, je vous en
prie. Tant que Parisien, je suis très flatté, très touché parce que j'ai amené mon gros manteau, mais bon.
Et là, vous n'en avez pas besoin, parce que donc un microclimat. Tout à fait estival. Et pour en revenir à votre livre, vous me dites que donc on n'est pas trop là pour parler de musique, mais pourtant dans ce livre il y a beaucoup de musique. Il y a un fil conducteur. Alors il y a Leonard Cohen, mais il y a beaucoup de musique.
Mais c'est dans tous mes romans il y a de la musique. Moi j'appelle ça la bande originale de chacun de mes romans parce que j'adore la musique, je vis avec, et donc c'est normal qu'il y ait de la musique. Alors, il y a la musique, vous savez, c'est comme dans les films. Il y a la musique du film et il y a la musique dans le film. Parce que dans un film, il y a des musiciens parfois qui jouent, etc. Et là, c'est un peu pareil. Sauf que là, pour une fois, il y a une osmose. J'ai écouté du Leonard Cohen, notamment, pas que, en écrivant ce livre, enfin, pas en l'écrivant, mais au moment où je le faisais. Et puis il y a essentiellement du Leonard Cohen, mais il y a aussi du Bach.
Ah, il y a plein
parce que j'ai découvert Bach à 18 ans à Jérusalem chez les dominicains. Imaginez-vous, parce que j'étais abrité chez eux pour mon premier voyage, dans mes parterres, chez une dame extraordinaire dont je parle dans mon livre. Et elle avait un tourne-disque, parce que c'était il y a longtemps, un tourne-disque pourri, mais vraiment pourri. Et il y avait un disque. C'était la cantate 51 de Bach. Et j'ai mis ça et c'était une révélation. Et depuis, c'est resté un de mes morceaux préférés. Et donc, comme je suis quelqu'un qui paye ses dettes, je voulais payer ma dette vis-à-vis de Rina, comme elle s'appelait. Et c'est elle qui m'a fait découvrir l'univers de Bach. Hein. Il faut bien qu'il y ait un début à chaque fois, à quelque chose.
Alors, vous le disiez, il y a de la musique dans vos livres, mais celui-ci, il est un peu particulier comme livre. Et sur celui-ci, je ne m'attendais pas à trouver de la musique. Et pourtant, il y en a. Et comme vous le dites, probablement parce que vous ne pouvez pas faire autrement que...
Et pourquoi vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait de la musique dans ce livre?
Parce que vous nous emmenez quand même en 1973 à Jérusalem, en pleine guerre, et que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une bande-son avec, tout simplement.
Il y a de la musique partout, tout le temps.
Très bien.
Le temps,
j'en prends bonne note, Pierre Assouline.
Surtout maintenant, je veux dire, maintenant, la musique elle est partout, hélas. Écoutez, vous avez une symphonie de Mahler quand un téléphone sonne, donc
c'est quoi la sonnerie de votre téléphone?
Appelez-moi.
Mais là, vous l'avez branché ou pas, votre téléphone?
Non, non, je l'ai débranché.
Ok, parce que moi, j'ai pas mon téléphone avec moi pour vous interviewer.
Oui.
Je peux pas vous appeler, là.
Ah oui. Ouais, bah, sonnerie, c'est la sonnerie de Ivanhoé dans la forêt de Sherwood.
Ah, quand même.
Oui. Ah bon.
Ah, oui.
Mais c'est joli. C'est joli.
Mais c'est joli.
Oui.
D'accord. D'accord, très bien. Donc, Léonard Cohen est associé donc, finalement à toute votre vie. C'est ça que vous êtes en...
Oui, 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 c'est pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Là, il se trouve qu'il est en couverture et qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que l'action de ce livre donc, se passe en Israël en 1973. Dans la première partie. La deuxième partie, il y a une ellipse de 50 ans.
Voilà.
Une ellipse costaud, hein, 50 ans. Et deuxième partie, c'est 50 ans après,
voilà.
Au même endroit.
Exactement.
Et il se trouve, dans la première partie, il a été, avec quelques autres volontaires, pour aider le pays envahi par ses voisins. Et donc, c'est un fil rouge dans cette histoire.
Exactement.
Parce que le narrateur le cherche et ne le trouvera jamais, mais c'est pas grave. Il sait qu'il est là, c'est son idole. Et il se dit, ce serait formidable si je pouvais citer un concert sauvage de Leonard Cohen, puisque donc Leonard Cohen, en deux mots, fait partie de ces gens qui, au moment où il y a eu l'annonce de la guerre du Kippour, donc je rappelle en deux mots l'invasion d'Israël par les armées égyptiennes et syriennes, puis au fur et à mesure du conflit par des armées de l'ensemble du monde arabe finalement. Il y a eu des volontaires côté israélien, des volontaires civils, qui sont venus d'un peu partout dans le monde pour aider. Et alors parmi eux, Leonard Cohen, qui vivait dans son île, à Hydra, dans l'une des îles grecques, il vivait là-bas depuis des années, avec Marianne, pardon. Oui, pardon.
Suzanne, et, c'est le titre de la musique.
Oui, c'est une autre. Et qui il a entendu ça, ben, il n'a même pas réfléchi, il a pris le premier avion pour Athènes, et d'Athènes, il a pris le premier avion pour Tel Aviv, alors que c'était plongé dans la guerre dès les premiers jours. Mais le plus extraordinaire dans son histoire, parce que ça m'a passionné quand j'ai vu ça, c'est qu'il est allé directement là où il y avait les combats, ce qui est totalement insensé pour un civil. Il a dit, ben, je veux aider, alors je voudrais jouer de la guitare pour les soldats quand ils se reposent, ce qu'on appelle, nous, le théâtre aux armées. Et dans toutes les armées du monde, il y a des moments de repos et il y a des gens qui font du théâtre, de la musique, enfin bon. Et là, il y a eu des volontaires, effectivement, des artistes qui sont venus d'un peu partout dans le monde pour ça. Et lui est venu tout seul et on lui a dit, bah, écoutez, la bataille, là, en ce moment, c'est dans le Sinaï, au canal de Suez. Ben, il a été et on l'a laissé passer. Et il s'est retrouvé dans le désert et juste au canal de Suez. Et c'est cette photo de la couverture, je la trouve extraordinaire.
Oui.
C'était, il y a eu des photos faites. Et alors, hélas, il y a 50 ans, les gens n'avaient pas de téléphone portable avec une vidéo et tout ça, donc ça n'a pas été filmé. Mais il y a eu des photos quand même. Et l'enregistrement a disparu.
Et on retrouve bien là à nouveau, Pierre Assouline, une de vos plus grandes qualités pour notre plus grand bonheur, c'est votre capacité à raconter l'histoire. Et dans ce livre, vous dites j'ai appris l'histoire pour comprendre mon père et l'arabe pour comprendre mon grand-père.
Et oui, parce que je suis d'une famille séfarade, je l'ai raconté dans un livre précédent.
Absolument.
Et donc, mes parents sont nés en Algérie, à Oran et à Beaune. Et, mais leurs parents à eux étaient nés au Maroc, et à la limite du Sahara. Et donc, c'est la rencontre entre des Juifs d'Espagne chassés par l'Inquisition à la fin du Moyen-Âge, expulsés vers le Maroc, et qui sont descendus vers le sud. Et puis, avec des Berbères, il y a eu une judaïsation des tribus berbères à cette époque. Et c'est la rencontre de ces deux mondes qui a donné ma famille, voilà, tout simplement. Et donc, alors mon grand-père parlait parfaitement le français, et il s'exprimait en français essentiellement. Mais comme il savait que je m'intéressais beaucoup à tout ça, à tout ce qui est origine, généalogie, et tout ça, on parlait beaucoup. Et de temps en temps, quand il avait l'occasion, il sortait. En fait, c'est surtout avec ma grand-mère, quand il voulait pas que je comprenne, Il parlait avec des mots d'arabe, mais j'ai fini par comprendre.
Eh ben oui.
D'autant que j'ai fait des études d'arabe après, parce que j'étais très curieux de tout ça.
Et votre père était un passionné d'histoire comme vous ?
Alors oui, mais enfin, j'étais un passionné de l'histoire qu'il a vécue, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comme il s'est engagé, il a devancé l'appel à 17 ans et demi avec ses amis, ses copains du lycée d'Oran. Donc, lui, il est de la classe 43, donc 20 ans en 1943. Et donc, il a devancé l'appel et il s'est engagé dans ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, qui a rejoint ensuite la deuxième DB, donc la campagne de Provence, campagne d'Italie, et campagne de France, débarquement en Provence, jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Et donc, quand j'étais petit, il ne racontait pas, parce qu'il avait horreur du côté ancien combattant, et je ne voulais pas le pousser. Mais quand j'ai eu 17-18 ans, je préparais mon bac, j'avais beaucoup de questions, parce que c'était au programme, c'est le sujet. Et là, on a commencé vraiment à avoir des tas d'entretiens, et ça m'a donné le goût de l'histoire. Et puis, pour ma chance, et on le dira jamais assez, moi, j'ai eu le privilège de vivre dans une maison, sans que mes parents soient des intellectuels, une maison où il y avait des livres. C'est très important. C'est pas uniquement une question de classe sociale. Je connais des familles riches où il n'y a pas de livres. Pas de bibliothèque, et quand il y a une bibliothèque, c'est occupé par des photos, des bibelots, des choses comme ça. Mais il faut penser que pour des enfants, grandir dans un endroit où il y a des livres, je parle pas des livres, c'est important. Évidemment, je les lisais pas, j'étais petit, mais ils étaient à ma hauteur. Et rien que de voir les couvertures, les tranches des livres, de voir les photos en couverture, ça a engagé mon goût de l'histoire par la suite. C'est énorme. Je connais une grand-mère, qui est la mère d'une de mes amies, qui est fan d'un poème, « Tu seras un homme, mon fils », de Kipling. J'en ai fait un livre par la suite. Et alors, elle me dit, un jour, elle me dit, « Vous savez ce que j'ai fait pour obliger mes petits-enfants à le lire ?» Parce que c'est son genre. Alors, je dis, « Non, qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle me dit, « Je l'ai fait encadrer et je l'ai accroché aux toilettes en face de là où on est assis. Et donc, quand ils sont aux toilettes, ils n'ont pas le choix, il n'y a que ça à lire. Eh ben, ils le connaissent par cœur.
Un modèle comme un autre. Bonjour. Et votre père a 20 ans en 43, et vous avez 20 ans en 1973. Et vous dites...
Et mon grand-père, 20 ans, ou plutôt 18 ans en 1918.
Okay.
Et qui s'engage.
Ce sont des dates quand même assez éclées. Et vous dites dans ce livre, avoir 20 ans en 1973, avec une guerre à distance, c'est particulier parce qu'on est après 1968. Pourquoi c'est particulier après 1968 ?
Il faut imaginer qu'après 68, en France, en tout cas moi j'ai vécu ça à Paris, je veux dire, la politique est partout. Ça a été une révolution des mœurs, sans aucun doute. Moi, j'ai vécu 68 dans mon lycée. C'était bien, mais après, les deux ou trois années après, l'onde de choc de 68, c'était un lycée recouvert d'affiches politiques, mais recouvert. C'est le plus grand lycée de France, hein, point de vue superficie. Donc vous imaginez, pas un mur était immaculé, et à la sortie du lycée, tous les jours, des distributions de tracts. Quand de temps en temps, je vais même régulièrement dans des lycées parler de mes livres, je regarde les lycées, il n'y a rien. Il se passe rien,
oui.
Peut-être mieux d'ailleurs, mais enfin bon, je sais pas. Mais et chaque fois que je pose la question, on me dit ah non, non, on fait pas de politique, il y a pas de. Je dis mais il y a pas des conférences, ah non, 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 et pas une affiche, pas un tract par terre, rien. Mais à l'époque, les années 72, 73, 75, on faisait que ça. Et puis il y a des meetings tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et donc c'est cette conscience politique aussi,
oui.
Plus. Plus encore le fait, parce que dans ce livre, on voit bien, vous dites qu'il y a quelque chose d'atavique hein, dans votre famille qui est lié à l'engagement. Et donc,
c'est pas seulement l'engagement, c'est un principe tout bête. Et moi, je dois beaucoup à l'éducation de mes parents, et qui n'est pas dirigiste. Hein. Ce sont des valeurs, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre. C'est quand on a des idées, quelles qu'elles soient. Si on veut être heureux, si on veut être bien dans sa peau et être digne, on met en accord ses actes et ses idées. Vous allez me dire, c'est une question de bon sens. Ben non, c'est pas du tout du bon sens, c'est pas de la logique, parce que vous vous apercevez que beaucoup de gens ont de grandes idées, notamment politiques, mais ne vivent pas en accord avec ces idées. Et là, il s'agit quand même d'une guerre, donc c'est plus qu'une crise. C'est quand même la crise maximum. Et malheureusement, c'est d'actualité en ce moment, plus que jamais, un peu partout dans le monde. Eh bien, si on défend des idées, il y a un moment où on n'a pas d'autre choix. Vous savez, une fois, je me rappellerai toujours, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews dans ma vie, je suis journaliste, hein, comme vous, j'ai interviewé Fernand Braudel, grand historien, pour son anniversaire, je faisais son portrait, et je lui dis, quand même, en tant qu'historien, tout ça, vous avez été un mandarin, vous aviez un pouvoir, mais vous n'êtes pas beaucoup engagé. Il me dit, si, c'est un engagement. Je dis, non, mais un engagement, je parle politique, tout ça. Il me dit, écoutez, monsieur, je me suis engagé une fois. En 1940, j'ai été volontairement pour m'engager dans l'armée française pour défendre mon pays. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, mais pourquoi? Il me dit, parce que il y a des situations dans la vie d'un homme où il serait indigne de ne pas s'engager.
Et c'est ce qui vous pousse, vous, à aller donc en Israël au moment.
Le narrateur,
mais on voit bien qu'enfin. Ce narrateur a beaucoup de vous, Pierre Assouline.
Vous trouvez?
Je pense que je ne suis pas la seule. Quelle mémoire convoquez-vous pour raconter cette histoire 50 ans plus tard, cette histoire qui se déroule en 1973, et dont vous dites à un moment donné, un écrivain ne comprend ce qu'il vit que quand il l'écrit. Or, vous l'écrivez 50 ans plus tard.
Parce que, j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. Donc c'est avant le 7 octobre. Ça n'a pas été provoqué par le 7 octobre.
D'accord.
Donc c'était avant, mais parce que j'ai commencé à me dire, mais on approche du 50e anniversaire de 1973. Et pour moi et quelques-uns de mes copains, qui sont toujours mes amis, ça a été un événement fondateur. Quand vous vivez dans une guerre à 20 ans, ça vous marque, surtout que vous êtes étudiant, c'est assez confortable, tout ça, et volontairement vous vous précipitez dans un endroit où c'est la guerre. Bon, si vous en ressortez indemne, oui, voilà, c'était chouette, c'est que vous avez un problème. Non, on en ressort différent, changé, et pour la vie, ce qui est normal. Donc ça m'a marqué, et je me disais, et on se disait, si on est vivant dans 50 ans, eh bien, on retournera là-bas et pour prendre la mesure du chemin parcouru. Alors, on se disait ça depuis longtemps. Et puis, à l'approche de ces 50 ans, j'ai commencé à me travailler. Je me dis, tiens, je vais écrire là-dessus.
Mais à quelle mémoire avez-vous convoqué pour vous souvenir à ce point au présent, quelque part, dans ce livre?
La mémoire d'il y a 50 ans. Je me suis replongé dans il y a 50 ans.
Facilement.
Oui.
Ça ne vous a pas quitté, donc.
Mais parce que toute cette première partie est totalement exacte. Je me rappelle, et je suis pas hypermnésique, mais je me souviens des noms, mais j'en ai changé, bien sûr, mais des lieux, des phrases, des réparties. Je me rappellerai, par exemple, c'est tout bête, c'est un détail, mais j'avance un peu, mais quand on arrive pour la première fois, au début de la nuit, dans ce village, en plein cœur du pays, comme volontaire, et qu'il y a un type sur son tracteur qui nous dit en français, mais qu'est-ce que vous foutez là? On nous a appelés, on nous a dit de venir ici, etc., pour vous aider. Et il dit, moi, on n'a pas besoin de vous. retournez dans vos boîtes de nuit, vous nous faites chier. Aussitôt les autres villageois sont venus en disant non mais oubliez-le, c'est un emmerdeur notoire, il aime personne et personne ne l'aime, donc voilà, c'est la question est réglée. Mais cette phrase, cette attitude, je l'ai là depuis 50 ans, donc il y a beaucoup de choses comme ça, la découverte de Bach, la cantate de Bach, mais c'est il y a mille et une choses.
Mais pourtant, vous citez Kafka en disant que le plus difficile, c'est de partir à la conquête de son passé.
Oui, Mais je citerai aussi Proust, qui dit que parfois vous pouvez vivre des années entières qui ne laissent aucune trace, mais vous pouvez vivre 3 mois qui vous marquent pour la vie.
Et donc c'est un mélange de ces deux oui. réflexions finalement.
Oui.
Parce que vous dites aussi dans ce livre que ce voyage vous a scindé en deux. Donc vous avez gardé intacte la partie qui est celle qui s'est retrouvée à Jérusalem, dont vous dites que cette ville a un pouvoir attractif inouï. Et donc il y a une partie de vous qui est... Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est restée à Jérusalem pendant
Alors, Jérusalem, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a Israël, il y a Jérusalem. Bon, Jérusalem, j'ai au départ, quand j'ai connu Jérusalem à 18 ans, et puis je suis revenu souvent, j'étais fasciné effectivement par la ville. Mais il m'a fallu y habiter longuement. C'est-à-dire quand j'ai écrit un livre sur Job, oui. qui s'appelle « Vie de Job », je ne sais pas si je suis venu en parler ici, je ne m'en rappelle plus, mais pour Job, donc, j'ai travaillé sur toutes les éditions de la Bible pour comparer les traductions. Je ne voulais pas prendre une seule traduction du livre de Job. Et donc, je me souvenais, j'avais un très bon contact avec l'école biblique de Jérusalem, qui est au couvent Saint-Étienne, proto-martyr, donc dans la vieille ville. Et j'avais connu des gens là-bas autrefois. Et donc, ils m'ont dit, mais viens, c'est les Dominicains, hein, c'est un couvent de Dominicains, ils m'ont dit, non seulement tu viens, parce qu'ils ont la plus grande bibliothèque sur la Bible, après celle du Vatican. Ils m'ont dit, on a tout. Mais ils me disent, mais viens, mais habite avec nous. On te donne une cellule, et tu habites avec nous, parce que si tu vas à l'hôtel, tout ça, à 5h du soir, il faut que tu partes, comme tous ceux qui viennent, les étudiants, tout ça. Alors que si tu habites là... Même si la nuit tu veux aller lire à la bibliothèque, bah tu allumes et tu descends. Et c'est voilà, c'est mieux de vivre au couvent. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai compris à quel point Jérusalem est invivable parce qu'il y a une telle concurrence des monothéismes que c'est asphyxiant. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, le vendredi après-midi, les dominicains me disaient ne sors pas parce que tu vas te retrouver dans la foule. Des musulmans à l'appel du muezzin qui vont à la mosquée pour le vendredi, et dans la foule des juifs orthodoxes dans l'autre sens qui veulent aller au tombeau à Hébron, au tombeau des patriarches, ou alors pour le Shabbat dans les différentes synagogues. Et nous, au milieu, on sonne les cloches. Bon, et c'est vrai que quand il y a le muezzin plus les cloches. Plus les orthodoxes juifs qui chantent en pleine rue, ça prend la tête. Hein. Et là, j'ai compris, parce que j'y ai fait plusieurs séjours assez longs, et j'ai trouvé que ça devenait asphyxiant. C'est une ville passionnante, mais elle est trop... pour moi, elle est invivable.
Et la terre, qu'est-ce que ça représente, la terre? Parce que dans ce livre, donc, dans ces deux parties... On voit bien en même temps que entre les lignes, ce que vous évoquez, c'est aussi le rapport que nous avons à la terre.
Ouais, pas tous, hein. Parce que si vous dites la terre physique, la plupart des urbains, des citadins, ils n'ont pas de rapport à la terre. Mais si c'est la terre au sens métaphorique du terme, oui. Bah, dès lors qu'on s'intéresse à ce qui était avant nous. D'où on vient, à la famille d'où l'on procède, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. N'imaginez pas le nombre de gens qui ne s'intéressent pas du tout aux origines de leur famille, tout ça, pas du tout. Moi, évidemment, ça me passionne, parce que c'est l'histoire, et puis c'est... Voilà, on vient pas de nulle part. Mais ben, la Terre, là, pour une fois, je l'ai touchée, puisque donc nous étions un groupe de volontaires venant de France... De Paris essentiellement, mais aussi de Marseille et de Lyon, je crois. Un petit groupe. Et donc, ça avait été préparé en avance. Il y avait donc un village, ce qui s'appelle un moshav. Moshav, c'est un kibbutz pour individualistes. Et les moyens de production sont collectifs, mais les maisons sont individuelles. Les enfants ne sont pas isolés des familles. Bon. Et donc, ce village, ce moshav... avait sollicité de l'aide tout simplement parce qu'il venait de recevoir des bêtes pour l'élevage, des roses, ils avaient planté des fleurs, etc., etc. Et tout d'un coup, avec la guerre, tous les hommes ont été mobilisés d'un coup, et donc il n'y avait plus personne. Et c'était catastrophique pour tous ces villages. Donc eux, ils étaient des francophones. Hein. Donc ils ont demandé, enfin majoritairement, à ce qu'on vienne les aider. Et sachant qu'il y avait des volontaires, ils ont demandé à avoir des volontaires. Donc, comme c'est en plein centre du pays, et que autour de ce village, c'était désertique, il n'y avait rien, l'horizon à perte de vue, le rapport à la terre, vous l'avez en direct.
Ça a participé à changer votre regard sur le monde après.
Oui, bien sûr. Enfin, ça et tout le reste.
Bien sûr.
Parce que, quand même, je dois le dire, ce qui est au cœur de ce roman, c'est une rencontre.
Absolument.
Et c'est ça qui a changé aussi beaucoup de choses. Donc, cette rencontre, c'est une rencontre... si vous voulez, c'est la découverte, en même temps, de l'amour et de la mort par deux jeunes de 20 ans, un garçon français, juif, parisien, et une jeune fille de 20 ans, ou une jeune femme, qui est soldate dans l'armée, qui est israélienne, et qui est affectée au bureau psychologique de l'armée, comme il y en a dans toutes les armées du monde. Et comme dans toutes les armées du monde, son travail consiste à aller dans des familles annoncer la mort.
D'où le titre de votre livre.
Voilà, l'annonce. Annoncer la mort d'un fils, d'un frère, d'un père. Vous imaginez ce que c'est. Et donc, on s'est rencontrés grâce au jeu d'échecs. Et on tombait amoureux. Mais voilà, à 20 ans, on est des gamins. Hein. Enfin, je dis ça maintenant. Mais
c'est ça qui est assez fort dans cette partie. C'est que, donc vous le dites, hein, il est question d'amour et en même temps d'une forme de gravité quand même. Et vous avez cette écriture qu'on vous connaît depuis toujours, qui est si douce malgré tout.
Et puis, ce qu'on dit, c'est qu'il y a de l'humour, je vais bien le croire, parce que on peut pas, si on reste dans la gravité, on se flingue. Hein.
Oui.
Parce que quand même.
Enfin, néanmoins, la deuxième partie est bien moins légère. Hein.
Elle est moins légère. Alors, on va y venir, mais même dans la première partie. Donc, moi, je l'ai. Moi, mon travail en tant que volontaire, j'ai quand on a distribué les rôles, si je puis dire, hein, les affectations au village. Chacun s'est précipité vers les roses et tout ça, les serres. Moi, écoutez, moi, je suis là pour aider, je prendrai ce que vous voulez. Donc, je me suis mis près du chauffage, comme les cancres, et j'ai attendu.
Et vous n'avez pas été déçu du voyage.
Mais ceux qui se sont précipités, ils ont connu leur douleur, parce que les roses, ça pique, hein, et c'est dur. Et la serre, quand il fait plein soleil, je peux vous dire que ça y va. Mais enfin, bon, c'était leur choix. Mais après, on me dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais moi, je fais ce que vous voulez. Je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour vous aider. Ah, il me dit, bah, écoutez, il n'y a personne qui a pris les dindons. Bon, je connaissais pas les dindons.
C'est vrai que c'est un ressort narratif assez amusant.
Bah, c'est-à-dire que je suis passé quand même d'études d'histoire à Nanterre à dindons.
C'est ça. Mais vous faites pas que ça, vous faites quelque chose d'assez romantique aussi, puisque vous faites le courrier.
Le courrier ?
Oui.
Bah, le courrier, parce que j'étais celui qui en recevait le plus. Alors, ils m'ont dit, voilà, toi, on te passe le tracteur à 18h, tu distribues le courrier à tout le mochard.
C'est ça, parce qu'en fait, on est aussi à une époque où on punaise les cartes au mur et où on écrit des courriers manuscrits.
Ah oui, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien de tout ça. Et le téléphone, y en avait un central, mais ce n'était pas facile. Et donc, on m'a donné les dindons. Bon.
Au début, vous n'êtes pas brillant avec les dindons. Hein.
Oui, mais j'aurais aimé vous y voir.
Ah, oui. Ah non, moi, j'y serais pas allé. Hein.
Non, mais
sur les dindons. Ça, les je dindons, vous laisse, Pierre Assouline.
J'ai accepté. Écoutez, bon, il y en avait 2000. Hein.
Oui. Enfin, vous avez perdu quelques-uns en cours de route. Hein.
Donc, 2000 dindons, un poulailler. Et puis, je suis arrivé dans une famille. Il y avait juste une jeune femme de 30 ans et ses deux enfants qui avaient 4 et 5 ans. C'était charmant, je ne parlais pas un mot de français, donc je parlais d'hébreu, puisque j'ai appris comme ça, en regardant la télévision tous les soirs, les nouvelles du front, la radio en permanence, et en parlant avec eux. Et le mari était au front dans le Sinaï, tankiste. Et donc, j'ai appris. Bon, alors honnêtement, sur les 2000, j'en ai tué une centaine. Enfin, pas tué volontairement.
Non, vous n'avez pas fait exprès.
J'ai pas fait exprès.
Mais vous dites que comme vous avez une bonne mémoire précise de ce qui s'est passé en 1973, c'est-à-dire que vous êtes incollable sur le dindon encore aujourd'hui.
C'est l'animal le plus bête que je connais.
Ok. Donc la réponse est oui.
Ben oui. Non, je donne l'exemple, le premier exemple qui a fait que je suis responsable de la mort de quelques-uns, c'est que je laissais le seau en fin de journée, le seau pour de l'eau, et je le laissais comme ça, pas à l'envers, mais à l'endroit. Et dans la nuit, il y en a toujours un qui va voir ce qu'il y a dans ce seau. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce seau, on peut pas ressortir. Oui. Et donc, il y en a un autre qui arrive. Et un autre. Et le matin, il y a 5 morts ou 10 morts. Ah oui. Étouffés par celui d'en haut. Et d'autre part, s'il y a un dindon qui prend un coup de bec, il y a un tout petit peu de sang, il se fait manger tout cru. Tout cru. Et oui, donc il faut tout de suite l'isoler, le soigner et le mettre à l'isolement. Donc, j'étais seul à m'occuper de tout ça, plus les nourrir. Ça, c'est porter des sacs. Mais enfin, j'étais vaillant et sportif, donc ça va. Mais porter des sacs de graines pour 2000 dindons, c'est du boulot. Et le week-end, c'est Shabbat, on est libre. Et donc, j'allais me balader. Et là, j'accompagnais ma copine dans son travail, oui, en restant à distance. Sauf que de temps en temps...
vraiment un drôle de travail. Hein. Et donc, on passe du temps sur cette histoire d'annonce. Et c'est assez glaçant, mais... on apprend qu'il y a 3 états provoqués par l'annonce. Et surtout, vous nous amenez à réfléchir au silence d'une façon très singulière. Le silence de l'absence, pas n'importe quel silence. Le silence de l'absence. Et ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur ce silence.
Oui, bien que dans ce que je raconte, on n'est pas dans l'après, c'est-à-dire l'accompagnement du deuil, etc. Parce qu'il y a un service dans l'armée qui est délégué pour venir après l'annonce, pour aider des gens qui viennent de recevoir un coup de massue. Un coup de massue, c'est-à-dire dès lors qu'ils reçoivent ce coup de massue, ils savent qu'il y a un avant et un après. Et très souvent, c'est des familles où il y a une jeune femme et 2 jeunes enfants et plus de père, puisqu'ils viennent mourir. Donc, faut pas oublier, c'est particulier, ça c'est particulier à ce pays et à l'armée israélienne. Tout le monde fait l'armée, y compris les femmes. À l'époque, c'était 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes, ce qui n'était pas le cas avant, sont dans des unités combattantes. Vous avez même des femmes pilotes de chasse, des femmes tankistes. Bon, tous ces gens sont très jeunes. Quand tout le monde a fait l'armée, tout le monde a fait la guerre. Il ne faut pas oublier, j'ai pris conscience de ça en y étant vraiment, c'est que, enfin, en y retournant 50 ans après, c'est qu'il n'y a pas une génération qui n'a pas fait au moins une guerre. Quand je dis fait, c'est pas juste voir des bombes tomber, c'est être sous les drapeaux et être au combat. Il n'y a pas une génération qui y a échappé. Et donc, comme ils rentrent à 18 ans dans l'armée, je veux dire, à 25 ans, ils sont commandants. Donc, des officiers ne disent jamais en avant, ils disent suivez-moi. Donc, il y a beaucoup d'officiers qui meurent au combat. Donc tout ça, ça en fait une armée particulière. C'est pas... J'ai pris conscience de pas mal de choses comme ça en écrivant. Par exemple, en 73, ce pays avait 25 ans. Mais c'est rien, 25 ans. C'est rien du tout, 25 ans pour un pays. Là, aujourd'hui, il a 75 ans. C'est déjà... Bon, c'est pas beaucoup non plus, mais enfin... Mais 25 ans, j'avais même pas réalisé à quel point... C'était...
Oui, vous dites d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs dont les parents sont moins âgés que la Terre.
Oui.
Vous dites que...
C'était une époque où... Parce que bon, on allait de temps en temps à la plage, parce que malgré les bombes, vous savez, s'il n'y a pas la fameuse résilience israélienne, tout le monde serait mort. Eh bien, quand on allait à la plage, on voyait couramment, chez des gens d'un certain âge, des numéros. Là, 50 ans après, ceux qui ont des numéros là, aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont rescapés de la rêve partie.
Ah oui.
C'est ça. Et qui ont marqué comme numéro la date 7 octobre 2023. Donc,
il y a une forme dans cette deuxième partie. Je le disais tout à l'heure. Il y a une gravité vraiment différente. On a la sensation que quand on est dans cette première partie en 1973, où vous racontez à la fois cette histoire de ce jeune homme qui s'appelle dans le livre Raphaël et qui est très inspiré de votre histoire, on le comprend bien. On a la sensation que vous décrivez comme le pressentiment de la gravité, et que dans la deuxième partie, on est dans la gravité. Il y a quelque chose qui manque terriblement d'espoir dans cette deuxième partie.
Ce manque d'espoir, pessimisme, il est déjà dans la phrase placée en épigraphe. Et vous savez, je plaide toujours pour qu'il y ait une phrase en épigraphe dans les livres en général, dans les romans surtout, parce que c'est l'ambassadeur du livre. Une phrase bien choisie, pas une phrase pour frimer de Goethe ou de Shakespeare, comme c'est la plupart du temps. Non, une phrase qui engage vraiment le livre et l'auteur. Et j'ai mis une phrase de David Grossman. Alors, vous avez le livre ?
Il est là. Alors, vous voulez lire ?
Quand j'ai trouvé cette phrase, je me suis dit, il faut absolument que je la mette en épigraphe. Tragiquement, Israël n'a pas réussi à guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas se sentir chez soi dans le monde. C'est une phrase de David Grossman, qui a perdu son fils pendant la guerre du Liban. Je crois que c'est le dernier mort de la guerre du Liban. C'est une phrase terrible parce qu'elle est pessimiste. Alors, moi, on me dit « t'es pessimiste ». C'est pas ma nature. Là, je suis assez pessimiste. Et en même temps, il y a une telle puissance de résilience là-bas que, voilà. Bon, c'est difficile d'être pessimiste, d'être optimiste à distance. Et puis bon, c'est compliqué. Cette deuxième partie, c'est pas seulement une guerre horrible qui n'est pas finie d'ailleurs, pas tout à fait finie. Mais c'est aussi un massacre inaugural, quel que soit le nom qu'on lui donne, pogrom, etc. C'est un massacre inaugural et qui est totalement inédit. Ce pays a quand même été créé pour qu'il n'y ait plus de pogrom vis-à-vis des Juifs, pour que les Juifs qui ont vécu pendant des milliers d'années, pendant 2000 ans, à la menace des pogroms, un peu partout, mais notamment en Europe, pour qu'ils puissent se défendre. Or là, malgré tout, ça s'est produit. Exactement ça, un pogrom.
Oui, vous dites le judaïsme a finalement le sommeil léger.
Oui, il a le sommeil léger parce que c'est réveillé. C'est pas le judaïsme, c'est l'antisémitisme.
L'antisémitisme, pardon.
L'antisémitisme
en
a le sommeil
disant,
léger.
Je me disais, il y a un problème.
Il se réveille pour un rien et très moi. Facilement. Et donc, ce qui est nouveau, ça a été ça, cette attaque, et puis l'écho extraordinaire que ça a suscité négativement dans le reste du monde et que personne n'avait annoncé ni pressenti. Parce que...
Mais alors, comment écrire ça? C'est délicat, hein, quand même.
On marche sur des œufs. Hein.
Voilà. Comment vous arrivez à écrire? Comment on se retrouve devant sa copie pour écrire ça? Qu'est-ce qu'on censure? Qu'est-ce qu'on
n'écrit pas? D'abord, j'y suis retourné. Hein. C'était prévu que j'y retourne. Sauf que ça a coïncidé presque à quelques heures près, les 50 ans, avec ce qui s'est passé. Et donc, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien. Et puis, c'était la guerre à fond. Donc, j'ai dû reporter de quelques mois. Mais je suis retourné, j'ai discuté avec des gens, j'ai beaucoup été manifesté, faire une manifestation anti-gouvernementale, d'abord contre la refonte judiciaire, et ensuite pour la libération des otages. Et on parle de ça alors que demain vont être rendus des cercueils d'otages, dont des cercueils d'enfants. À supposer qu'il y ait des cercueils, et non pas des sacs en plastique. Donc voilà, c'est pas fini. On parle de quelque chose qui se déroule. Il m'a fallu y aller pour parler avec les gens, être avec eux, etc. Tous mes livres sont marqués par des détails. Le détail dit les choses de la vie bien mieux que des grandes idées, des grandes théories. Un détail que je n'avais pas observé auparavant, il y a quelques mois, j'étais donc là-bas pour finir mon livre. Et un soir, je vais dîner avec une amie dans le quartier, le Saint-Germain-des-Prés, local de Tel Aviv. Et puis on hésite entre plusieurs terrasses. Mais moi, je lui dis, voilà, cette terrasse, elle a l'air sympa. bien, même si on oublie que les attentats sur les, contre les terrasses, il y en a toujours eu, et à chaque fois, il y a 20 ou 30 morts. On ne peut pas penser à ça en permanence. Donc, moi, j'oublie ça. Et elle me dit, ah, non, non, oublie ça. Et puis, on cherche une terrasse. Je dis, bah, écoute, celle-là, ça me paraît bien. Un café qui a l'air sympathique. Elle me dit, non, celle-là. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, parce qu'elle est, c'est la plus proche du prochain abri. Je dis, mais... Elle me dit, je sais où sont les abris dans ce quartier. Parce que si on... L'abri, c'est l'abri anti-missile.
J'ai bien compris.
Il y a des abris anti-missiles partout. Il y en a dans toutes les maisons, mais il y en a dans toutes les rues. Simplement, il faut savoir où ils sont, parce qu'ils sont camouflés. Elle savait parfaitement, dans ce quartier, où étaient les abris. Je lui dis, mais... elle me dit, tu sais, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne courent pas assez vite. Et donc, voilà, ce genre de détails... Moi, ça me venait même pas à l'esprit, même pas. De même que je crois beaucoup aux signes. J'étais en train d'écrire, c'était à Paris, j'étais en train d'écrire mon livre, et donc là-dessus, j'ai presque fini, arrive le 7 octobre. Donc je fais deux parties, 50 ans avant, 50 ans après. C'était impossible de rester insensible à ce qui venait de se passer, 50 ans à quelques heures près. Et...
Quel est le signe quand vous écrivez?
Il y a un signe, mais il vient de m'échapper.
Ah, ça,
il va revenir.
C'est ballot.
C'est pas, il va revenir.
Bon, quoi qu'il en soit, Pierre Assouline, on le voit bien. Hein,
attendez, la gravité... il est revenu.
Ah, ça y est.
Pardon. Pardon. J'écris que mon héroïne en 73, donc mon amie, hein, à un moment. D'un coup, elle s'effondre. Dans la journée, elle a annoncé trois fois, dans trois familles différentes, parce qu'il n'y a pas assez de monde, etc. Et elle se retrouve à l'hôpital dans le coma. Et son coma a duré en 8 jours environ. Et on ne savait pas trop ce qu'elle avait. J'étais avec sa famille, tout ça. Mais elle était dans le coma. Et il disait, c'est une sorte d'infarctus, mais c'est pas tout à fait un infarctus, on sait pas trop, mais c'est le cœur qui n'a pas pu. Bon, et elle revient à la vie. Magnifique. Deux, trois jours après, elle était à nouveau sur le terrain. Ça m'a marqué. Donc je le raconte dans mon livre, je l'écris.
Absolument.
Et tout en l'écrivant, tous les jours, je lis les nouvelles de ce qui se passe là-bas, donc la presse israélienne. Et je vois un reportage sur une femme du service psychologique de l'armée, qui est tombé dans le coma la veille et qui est hospitalisé, ou quelques jours avant, qui est hospitalisé. Et là, ils expliquent qu'elle a quelque chose qui est vraiment maintenant bien connu. Et à l'époque, c'était inconnu. Ça s'appelle le syndrome... Je ne sais pas s'il y a un médecin ici, un cardiologue ou un médecin. Dénoncez-vous. Non. Mais... c'est une équipe japonaise de cardiologues qui a trouvé ça. Ça se passe chez les femmes. C'est pas vraiment mortel, mais on peut en mourir. C'est quand il y a eu un stress permanent et une accumulation de stress dans une même journée, il y a quelque chose qui se bloque dans le cœur. Je l'explique dans mon livre. Ça se bloque dans le cœur et ça provoque quelque chose qui ressemble à un infarctus. Bon, mais ça s'appelle, je crois, le syndrome de Takuo Kubo, c'est le nom japonais, et qu'en Occident, on appelle le syndrome du cœur brisé. Si vous allez sur Wikipédia, vous trouvez le syndrome du cœur brisé. Maintenant, c'est connu. Mais il y a 50 ans, on ne savait pas ce que c'était. Eh ben, ça s'est produit chez une soldate en 2023, au moment où je le racontais dans mon livre. Ça, c'est un signe pour moi. De la même façon...
Il reste quand même cette interrogation sur l'écriture. Le livre précédent que vous avez signé, Pierre Assouline, s'appelle justement « Comment écrire ». Comment faire pour finalement relater l'expérience de ce que l'on vit avec les bons mots, avec l'intensité émotionnelle? Comment survivre aussi à l'écriture parfois si l'intensité émotionnelle est trop forte?
Je suis menacé du syndrome du cœur brisé, mais je suis pas une femme, donc ça va. Écoutez, l'émotion, elle est là. Moi, quand j'écris, je me mets dans un état, je m'isole complètement, je quitte Paris, etc. Je vais ailleurs, j'ai des endroits où j'écris et qu'on me prête, et je suis dans un état d'écriture. La seule fois où j'ai été touché par la grâce, c'est au couvent Saint-Étienne. Moi qui ne suis pas catholique, en pleine nuit, je regardais le Christ en croix dans ma cellule, qui me faisait face, j'ai l'impression qu'il me parlait, et ça m'a touché, quelque chose qui s'est passé. Bref, on est dans un tel état, quand on écrit, qu'on est en dehors du monde. Parce qu'on se met dans une situation très, très particulière. Quand j'ai publié Lutetia, il y a longtemps, beaucoup de gens, en le faisant dédicacer, venaient me voir en me disant, la troisième partie de votre livre, Le retour des déportés à l'hôtel Lutetia en 1945, ça m'a beaucoup marqué. Il y a quelques personnes qui ont trouvé leur nom, parce que je mets les vrais noms toujours, parmi les rescapés qui rentraient à l'hôtel Lutetia, qui m'ont dit qu'elles en avaient les larmes aux yeux. Et elles me disaient, mais comment vous faites? Et je leur disais toujours la même chose. Dites-vous bien que ce qui se lit les larmes aux yeux a été écrit des larmes aux yeux, tout simplement.
Et pourquoi un livre sur comment écrire? Parce qu'il reste ce mystère, justement, de quoi? De raconter le vivant, et comment le faire? Pourquoi ce livre, comment écrire?
Comment écrire, c'est parce que j'enseigne l'écriture depuis 28 ans ou 27 ans à Sciences Po à Paris, que j'aime beaucoup ça. C'est parce que c'est de la transmission. C'est vraiment la transmission.
Alors, en même temps, dans ce livre, dans Comment écrire, vous dites qu'il faut écouter toutes les règles qu'on vous donne, mais il ne faut surtout pas les écouter.
Mais pour ne pas les écouter, il faut d'abord les avoir.
Il faut d'abord les écouter. C'est comme le dessin, comme Picasso. Il faut d'abord bien dessiner pour dessiner comme on veut.
Je dirais même, ça va plus loin. Dans les nombreuses discussions que j'ai avec mes amis, quand il s'agit d'amis catholiques, je leur dis toujours, vos enfants sont baptisés. Alors, il y en a pas mal qui me disent oui, et puis d'autres me disent non, mais pourquoi on n'est pas croyant, etc. Et je leur dis toujours, baptisez-les, je m'en fous que vous soyez athée, mais baptisez-les au moins pour qu'ils aient quelque chose à rejeter quand ils auront 20 ans. Du catholicisme ou du judaïsme, peu importe. Quand on a 20 ans, le premier geste, c'est qu'on veut s'affirmer et donc se rebeller. Mais pour se rebeller, il faut qu'il y ait quelque chose. Or, on se rebelle la plupart du temps contre sa famille. Parce que se rebeller contre Macron, on s'en fout. Hein.
Ça n'a pas d'intérêt. Alors que ça peut être tentant, avouez.
Non, mais c'est pas très intéressant. Mais là, le premier geste, c'est de rejeter sa famille, son père ou sa mère. Et voilà. Après, on se raccommode, mais pendant quelques temps, c'est un peu difficile. Entre 15 et 20 ans, ça y va. Bon, eh bien, si on n'a pas eu d'éducation tout court, mais d'éducation religieuse, d'éducation spirituelle, ou même d'éducation laïque, mais avec des valeurs fortes, il n'y a rien à rejeter.
Et alors l'écriture, c'est pareil ?
L'écriture ?
Ou d'abord écrire beaucoup, enfin vous dire, dans ce livre, vous dites qu'il faut lire quand même, déjà.
Ah mais ça, c'est...
C'est la base.
C'est la base, mais pour toute la vie, pour tout le monde. Lire.
Même quand on n'écrit pas.
Ah bah oui. Bah oui, mais ils sont tous là pour ça.
Oui. En même temps, là, ici, non, mais vous ne prenez pas trop de risques.
Vous allez vous faire jeter par le public.
Il y a peu de chances. Ici, là où vous êtes aujourd'hui, il y a assez peu de chances que quelqu'un vous contredise sur ce sujet-là. Mais là, en fait, on parle d'écriture. Et donc, vous dites finalement, c'est aussi parce qu'on lit beaucoup qu'on trouve quoi, sa façon d'écrire?
Si on veut écrire, hein. Parce qu'on peut être un grand lecteur et continuer toute sa vie à être un grand lecteur, une grande lectrice, on n'est pas obligé d'écrire.
Mais vous, comment vous avez su à un moment donné que vous pourriez être à cette place-là?
Parce que moi, je voulais pas être écrivain du tout. Hein.
Vous êtes
je voulais être journaliste.
Oui, c'est ça.
Et j'étais journaliste très jeune, et je le suis toujours. Je n'ai jamais cessé de l'être.
Vous êtes toujours un journaliste très jeune, je confirme.
Merci. et donc, je continue, mais j'ai glissé, si vous voulez... Les premiers livres que j'ai faits à 23 ans sont des livres de journalistes. Et puis ça a continué. Pourquoi j'ai fait ces livres-là? C'était des livres d'enquête. Parce que la grande presse n'offrait plus ce qu'elle doit offrir. Du temps, de l'argent, de l'espace. Je m'en suis rendu compte dès que j'ai débarqué dans le journalisme. Et j'ai trouvé des éditeurs qui jouaient au rédacteur en chef. Ben, je lui dis, voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc, j'ai mes premiers livres, c'est ça. Après, j'ai écrit des biographies. Et on me disait, bon, mon éditeur me disait, tu permets que j'écrive derrière, écrivain. J'ai dit, non, journaliste, biographe, pas écrivain. Il dit, pourquoi? Parce que, je dis, un écrivain, c'est quelqu'un qui fait dans la littérature. La littérature, c'est le roman, c'est la fiction. Tant que je n'aurais pas écrit un roman, je ne serais pas un écrivain. Donc, je suis devenu un écrivain au bout de 15 livres.
Et est-ce que quand on écrit sur une histoire aussi personnelle que celle de ce livre qui s'appelle L'Annonce, est-ce qu'il y a des moments d'hésitation qu'on n'a pas par ailleurs quand on écrit une biographie qui seraient de l'ordre de l'autocensure, de ce qu'on peut raconter ou pas, qui appartient trop à l'intime, qui n'appartient pas à l'universel, ou qui pourrait heurter aussi des proches, ou etc. etc. Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure dans cette fiction-là?
Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que pour moi, un roman se situe toujours sur une tension entre l'universel et le particulier. L'universel, dans ce livre, c'est la rencontre par deux jeunes de l'amour et de la mort en même temps. Le particulier, c'est que ça se passe en pleine guerre en Israël. Et donc, si vous voulez, tout s'articule autour de ça. À partir du moment où je marque roman, je peux tout me permettre. Je dois ça à un très grand écrivain, Carlos Fuentes, écrivain mexicain. Je l'avais rencontré, on avait bavardé, et on parlait de ça. Il m'a dit, mais tu sais, tu marques roman, personne ne peut rien te dire. Il ne peut pas te dire, non, mais là, il y a une erreur, là, etc. Parce que c'est dans les biographies. Il y a 1000 notes dans chacune de mes biographies. Il y a des recherches d'archives, tout est sourcé, etc. Et puis régulièrement, il y a du courrier. Hein. Je me rappellerai pour Hergé, une lettre, j'oublierai jamais. Il y a beaucoup de lettres, hein, mais celle-ci a déjà commencé très mal. Monsieur, en ma qualité de polytechnicien, déjà.
Et alors ?
J'ai apprécié votre biographie d'Hergé, mais comme vous le savez, le château de Moulinsart, que vous citez au moment où Haddock va y entrer, est inspiré du château de Cheverny, ce qui est vrai. Vous dites qu'il gravit les 43 marches. Je les ai comptées. Il y en a 45. Bon, et ça, voilà. Vous écrivez un roman...
Sur toutes les biographies.
Mais vous écrivez... Oui, toutes les biographies, il y a des problèmes.
Même Le Nageur, par exemple.
C'est un récit. C'est un mi-chemin entre la biographie et le roman. C'était volontaire.
Vous êtes vraiment un artisan de l'écriture. Hein. Vous savez
tout
faire. En fait.
Ah oui, c'est pour ça que j'ai écrit Comment écrire. C'est très particulier.
Et donc un roman, on est libre.
C'est le roman est par excellence le lieu de la liberté de l'esprit. C'est ce que j'ai essayé de développer rapidement hier soir à l'Institut du Monde Arabe où il y avait une grande soirée de défense de Boualem Sansal. Et il y avait, 60 écrivains qui ont défilé sur la scène. François Bunel a animé avec Antoine Gallimard. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ça a été multidiffusé en espérant que ces messages arrivent à Sansal dans son hôpital prison, sa prison même. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que il a tous les droits. Bon, évidemment, l'apologie de la pédophilie est interdite, etc. Il y a des différentes choses qui sont comme ça. Mais le roman est par excellence le lieu de la liberté de l'esprit. Et j'oublierai jamais, Salman Rushdie m'avait dit un jour, il m'a dit, au début, quand la fatwa lui est tombée dessus, et il m'avait dit, quelle consécration. J'ai dit, pourquoi vous dites ça, là? Vous êtes quand même... Il dit, mais quelle consécration? Un régime d'un pays aussi important que l'Iran a peur d'un roman.
Et vous, ce sera ma dernière question, Pierre Assouline. Qu'est-ce que vous donnez comme force à un roman? Qu'est-ce que vous pensez que la littérature puisse faire? Et notamment là, puisque vous parlez de guerre.
La littérature peut faire énormément de choses. Évidemment, les gens qui sont hermétiques à la littérature, au roman, il y en a beaucoup. Bon, ben, ils sont pas atteints par tout ça. Mais les autres, je veux dire, un roman peut changer une vie. Mais je dirais même plus loin. Pas seulement un roman, une page d'un livre peut changer une vie. Moi, il y a des livres, il y a des pages qui ont engagé mes décisions importantes dans ma vie.
Par exemple.
Oh, j'ai pas ça en tête. Non, je l'ai pas en tête là, mais ça.
Il n'y a pas un livre dont vous vous souvenez qui a changé votre vie?
Non, non, ça on demande souvent ça aux gens, mais j'en lis tellement depuis tellement longtemps.
Je vous le demande parce que vous venez de le dire.
Je peux pas dire, ça va venir, hein. Mais quand même, une femme fuir l'annonce de David Grossman,
oui,
a été inconsciemment à l'origine de l'annonce. Parce qu'une femme fuir l'annonce, c'est un grand livre, mais une femme fuir l'annonce, c'est une femme, une Israélienne, qui est chez elle pendant la guerre du Liban et qui a très peur qu'un matin, une jeune soldate et un officier viennent taper à la porte.
Pour l'annoncer.
Alors,
mais vous pensez vraiment que la littérature peut avoir un vrai pouvoir, enfin en tout cas qu'on...
Oui, parce que ça change une vie. Je vais vous dire même, des rencontres comme celle-ci ou des conférences, j'ai assisté à des milliers, parce que j'adore ça. Donc j'y vais encore maintenant régulièrement, des écrivains, des artistes et autres. Si je ressors d'un débat ou d'une conférence avec une phrase, une seule, je n'ai pas perdu mon temps. Alors qu'il y a des tas de livres que je lis et qui me font perdre mon temps. Une seule phrase peut changer une vie. Et très souvent, je repars d'une réunion avec une phrase.
Donc l'intérêt de la littérature, c'est ça, c'est aussi pour vous de vous déplacer et quelque part d'essayer de mettre en route un dialogue. Alors, parce que vous dites dans ce livre que, en tout cas à 20 ans, vous aviez le goût de la provocation. Et ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aussi à l'envie de débattre avec l'autre, la provocation. Et donc pour vous, la littérature, finalement, c'est un peu ça. C'est la possibilité de débattre.
Alors, écrire, c'est une manière de parler sans être interrompu. Alors,
ça veut dire faut que j'arrête de vous poser des questions.
Non.
Ok.
Non, c'est pas vous. Vous pouvez continuer. Non, quand on écrit, on s'isole et puis on parle tout seul et on n'est pas interrompu. C'est vrai. Parce que c'est vrai aussi que dans les émissions de télévision, mais même dans la conversation quotidienne sociale entre amis, c'est difficile de faire plus de deux phrases sans qu'il y ait un zapping qui vous interrompt. C'est très difficile. L'écriture permet ça. Bon, mais après, on n'est pas obligé de venir à Bordeaux, à Nancy, etc., pour en parler. Modiano, vous ne le verrez jamais. Hein. Patrick Modiano, d'ailleurs, vous ne l'avez jamais vu. Il ne parle pas. Le livre vit tout seul ou il ne vit pas, peu importe. Bon, il peut se permettre. Il y a des écrivains qui ne veulent pas faire ça. Moi, oui. Je vais partout pour deux raisons. Enfin, pas partout. Je vais dans des lycées pour transmettre aux jeunes. Notamment, le nageur, on m'a beaucoup demandé d'aller parler du sport aux jeunes. Parce que les proviseurs m'ont dit, avant le Covid, les jeunes se disputaient dans le lycée pour aller jouer au foot. Depuis le retour du Covid, c'est impossible de les arracher des écrans. Petit, grand, moyen, peu importe. Mmh. Et plus personne ne veut aller au stade.
Et puis accessoirement, parce que le nageur est un livre remarquable.
Bon, merci. Mais le nageur, ça parle de certaines valeurs aussi. Donc, c'est la transmission. Et puis, l'autre endroit où je vais tout le temps quand on me demande, si je peux, hein, c'est les librairies. Tout simplement parce que ça n'a pas de sens de faire comme tous les écrivains font, de dire « Ah, la situation des librairies, c'est difficile. C'est un métier qui a du mal. Ils ont des problèmes, etc. » Or, si on va dans des librairies pour parler... Ben, ça anime la librairie, ça fait rentrer des gens, ils achètent des livres, il y a un échange avec les lecteurs. Et donc, si vous voulez aider un libraire, c'est ce que je leur dis toujours, allez-y.
Eh bien, je vous remercie d'être venu, Pierre Assouline.